Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bienvenue dans le 5-7, on écoute ensemble Le Monde Changé avec aussi Sophie Echen. Bonjour Sophie.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Pour votre journal, il est 6h.
Je l'ai vu jouer dans ce stade, Maradona. Donc j'ai eu besoin de venir ici pour célébrer ce mythe. Je suis sûr que lui aussi aurait aimé faire la fête avec nous.
Des scènes de liesse et des scènes de recueillement à Naples qui pleurent la disparition de son idole Diego Maradona. Des milliers de personnes se sont réunies devant le stade du Napoli hier soir. Dans l'actualité, Gérald Darmanin demande la révocation des 4 policiers impliqués dans les scènes de violence contre un producteur de musique. En parallèle, l'IGPN a rendu son rapport sur l'évacuation musclée d'un camp de migrants en plein Paris. C'était lundi soir. Dans ce journal aussi, les aides du gouvernement pour les jeunes précaires frappés par la crise, le désespoir des étudiants contraints de continuer les cours à distance, et puis J-1 avant les premiers assouplissements du confinement. Dès demain, vous pourrez élargir le périmètre et la durée de vos activités en plein air. Un bol d'air frais pour les surfeurs et les golfeurs. Nous serons sur la côte atlantique à la fin de ce journal.
On va prendre l'air. Après le journal, une vente aux enchères un peu spéciale à vendre, un moment privé avec une star, un déjeuner ou une visite dans un lieu secret. C'est Yann Arthus-Bertrand qui organise cette vente au profit de sa fondation et plusieurs personnalités donnent de leur personne, vous allez voir. C'est le cas de mon invité inattendu qui nous dira dans un quart d'heure quel est le lot qu'il propose. Et puis on retrouvera Fanny Agostini pour notre planète. Bon réveil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Après une pluie d'hommages à travers le monde entier, Diego Maradona a été inhumé à Buenos Aires hier. La capitale argentine a vu défiler des milliers de fans de l'ancienne légende du football venus lui dire un dernier adieu. Hommage aussi à Naples hier soir. Une foule d'habitants et de supporters se sont massés devant le stade du Napoli où a évolué et brillé Maradona dans les années 80 dans une ambiance incandescente. Blandine Hugonnet a suivi cette soirée pour Europe 1.
Dans la rue, tout le long des gradins, des dizaines de fumigènes rouges illuminent la nuit pendant de longues minutes. Pour ce dernier adieu à leur roi, les tifosi sont venus par centaines au pied de ce stade napolitain devenu mythique grâce à Maradona.
Il nous a rendu notre fierté, on le soutiendra toujours, c'est notre rédempteur, San Diego Maradona.
Naples, ça a toujours été la passion du foot, donc ce stade c'est devenu notre seconde maison comme c'était le cas pour Maradona.
Et devant les grilles du stade, un parterre de maillots bleus, de dessins ou de peluches éclairés par des bougies, avec ses fils, Simone tenait à venir ici déposer son écharpe du club.
Je l'ai vu jouer dans ce stade, Maradona, donc j'ai eu besoin de venir ici pour célébrer ce mythe. Je suis sûr que lui aussi aurait aimé faire la fête avec nous.
Mais à 21h pile, pétard, chant, tout s'est arrêté pour une minute de silence total à l'extérieur comme à l'intérieur du stade. Sur la pelouse, toute la squadra du Napoli a enfilé le légendaire maillot numéro 10, floqué du nom de Maradona en hommage. Naples, Blandine Hugonnet, Europe 1.
Et en hommage d'ailleurs à Naples, a battu les Croates de Rijeka hier soir, 2-0.
L'autre grand titre de l'actualité en ce vendredi matin, c'est la polémique après de nouveaux faits de violence policière.
4 policiers ont été suspendus à titre conservatoire après l'affaire du tabassage d'un producteur de musique le week-end dernier à Paris. Les vidéos de cette interpellation violente tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Invité du journal de 20h sur France 2 hier soir, Gérald Darmanin s'est exprimé sur cette affaire et le ministre de l'Intérieur affiche sa fermeté.
Ces images, elles sont inqualifiables. Et dès que j'ai pris connaissance de celle-ci, de ce qui s'était passé, j'ai demandé la suspension de ces policiers. Et dès que les faits seront établis par la justice, je demanderai la révocation de ces policiers. Ils ont sali l'uniforme de la République. Si on prend ces sanctions, c'est évidemment en pensant à cette personne qui a été agressée, mais c'est aussi pour protéger l'immense majorité des policiers et des gendarmes, qui font dans un contexte extrêmement difficile, chacun le sait, un travail admirable. Je pense que les Français soutiennent leurs policiers. Je voudrais dire aux policiers et aux gendarmes que moi je les soutiens sans faille. Mais le contrepartie de ce soutien, c'est évidemment l'exigence du ministre de l'Intérieur pour le respect absolu de la loi et de la déontologie.
Gérald Darmanin, hier soir sur le plateau du 20h de France 2. Et dans ce contexte, l'IGPN a rendu son rapport sur les incidents Place de la République à Paris lundi soir.
Et là aussi, les images ont provoqué la colère sur les réseaux sociaux. Images qualifiées de choquantes par le ministre de l'Intérieur qui avait donné 48 heures à la police des polices pour enquêter. Gladys Laffitte, sur les 3 faits étudiés par l'IGPN, il y a bien eu au moins un manquement ce soir-là.
Oui, un commissaire a fait un usage disproportionné de la force. Rappelez-vous de ces images, un policier qui fait un croche-pied à un migrant habillé en blanc qui courait dans les rues de Paris. C'est cet acte-là que la police des polices estime injustifié. Dans son rapport, l'IGPN juge que ce geste risquait de blesser gravement cet homme alors qu'il ne présentait aucune menace pour les biens et les personnes. Un manquement dénoncé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il a d'ailleurs demandé la réunion d'un conseil de discipline pour que des sanctions soient prises contre le commissaire. Autre autres vidéos et autres gestes, le coup de pied d'un policier vers un manifestant appelé chassé frontal. Ici, pas de manquement, dit l'IGPN. La technique apprise en école de police a permis de repousser sans blesser des manifestants jugés agressifs. Enfin, ce même policier, accusé d'avoir frappé le journaliste Rémi Buzyne, nie tout acte de violence. Cette seule vidéo ne montre pas de coup porté, dit l'IGPN, qui continue de chercher d'autres vidéos et témoignages. Le journaliste n'a lui pas encore été entendu. L'enquête continue donc.
Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1.
Il est 6h06. Jean Castex a détaillé hier les premières mesures d'assouplissement du confinement. Le Premier ministre a également précisé les aides destinées aux plus précaires.
Et touchés de plein fouet par la crise sanitaire, des secteurs entiers sont encore à l'arrêt. La restauration, l'hôtellerie, l'événementiel. Résultat, des millions de Français sont sans activité. Alors le gouvernement a sorti le chéquier. Clément Le Saffre.
Pour les travailleurs précaires, les saisonniers et les intermittents, cette aide prend la forme d'une garantie de ressources à hauteur de 900 euros par mois. Elle sera versée par Pôle emploi à ceux qui ont travaillé au moins 60% de l'année 2019 et qui, en 2020, n'ont pas suffisamment travaillé pour recharger leurs droits au chômage. 400 000 Français sont concernés par cette aide qui s'appliquera jusqu'en février. Le gouvernement a également ciblé les jeunes avec des dispositifs d'accompagnement pour ceux qui n'arrivent pas à s'insérer dans le marché du travail à cause du Covid. L'an prochain, 200 000 jeunes contre 100 000 aujourd'hui vont pouvoir bénéficier de la garantie jeune, une allocation mensuelle de 484 euros maximum, doublée d'un accompagnement personnalisé en mission locale pour les 16-25 ans qui n'ont ni emploi ni études. Enfin, les jeunes diplômés en difficulté eux aussi seront aidés pour trouver un premier emploi. Cela prendra la forme d'une allocation financière variable en fonction de ses revenus et d'un accompagnement spécifique à Pôle emploi ou à l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres.
Clément Le Saffre, les présidents d'universités réclament la réouverture des universités dès le mois de janvier et non pas en février. Ils estiment que les étudiants sont mis en difficulté par les cours à distance.
Mais il faut dire que la détresse morale des étudiants tuera plus à terme que le virus, alerte ses présidents dans une tribune. À Strasbourg, le reportage de notre correspondant Arthur Mbaché.
Donc un contrat de session,
une tasse de café tiède, une assiette pas débarrassée et le prof de Sciences Po sur l'écran de l'ordinateur dans la petite cuisine de la colocation de Malena, étudiante en distanciel, étudiante abattue.
Je me sens pas bien, je me sens comme dans un bocal. Et ce qui est difficile, c'est que moi j'ai l'impression de pas faire mon master parce que j'ai du mal à suivre. J'ai toujours été une bonne élève et là je pense que ça fait 2 semaines que j'ai pas pris de notes dans un cours. Quoi. Ouais, je suis triste, je renonce à des années qui sont charnières dans ma vie. Donc oui, je me sens plus fragile que ce que j'étais avant, alors que j'ai toujours eu un mental d'acier. Quoi.
Pour ne pas flancher dans les 9 mètres carrés de sa chambre d'étudiante, Fanny, elle, s'astreint à une discipline quasi monacale.
Donc le réveil le matin, toujours la même heure. Moi, c'est 7h30 le matin. S'habiller, ne pas rester en pyjama pour ne pas trop traîner. Le petit café, toujours. Et après, c'est en Skype avec mes camarades. C'est agréable de voir des gens par caméra, de les voir bosser aussi, ça motive.
Vous bossez en silence, voilà. Chacun dans son coin, mais en pouvant vous regarder les uns les autres.
Exact.
Et après 2 à 3 heures de travail, la pause, 20 minutes, Netflix, une série, un épisode, pas 2. Strasbourg, Arthur Mbaché, Europe 1.
Voilà, il y en a qui réussissent à s'organiser, à trouver un rythme. Il y a d'autres étudiants qui sont en difficulté et même en détresse, d'où ce coup de gueule des présidents d'université. Et ce matin, l'un d'eux est sur Europe 1, tout à l'heure à 6h40. Manuel Thunon de Lara sera avec nous. Il préside l'université de Bordeaux.
Du nouveau, à propos des négociations entre les partenaires sociaux, sur le télétravail, la plupart des syndicats ont donné hier un avis favorable au projet d'accord national du MEDEF. Seule la CGT continue de rejeter le texte. À l'étranger, Donald Trump se dit enfin prêt à quitter la Maison Blanche si et seulement si la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle du 3 novembre était confirmée, dit-il. Le président sortant qui continue tout de même à marteler qu'il y a eu une fraude massive au cours du scrutin.
On va pouvoir prendre l'air ce week-end, profiter de cette version allégée du confinement, 3 heures, 20 km avec du changement sur nos attestations et quelques limites, Guillaume Bier.
Fini la règle du 1 km, 1 heure autour de chez soi. Dès demain matin, nous pourrons prendre l'air plus loin et plus longtemps, mais toujours masqué. La nouvelle règle pour les promenades ou l'activité physique, c'est maximum pendant 3 heures et dans un rayon de 20 km. Pour autant, pas question de faire n'importe quoi. Il faudra toujours remplir une attestation et avoir un motif valable pour se déplacer. En clair, aller voir sa famille ou ses amis, cela reste interdit. En revanche, les visites en maison de retraite ou en EHPAD seront autorisées dans le respect des gestes barrières. Globalement, la liste des dérogations au confinement s'allonge puisque tous les commerces, sauf les bars et restaurants, vont rouvrir jusqu'à 21h, là aussi avec des conditions strictes, jauge limitée, 8 mètres carrés par personne. Réouverture des bibliothèques, mais pas encore des cinémas ou des salles de spectacle. En revanche, dès ce week-end, nous pourrons aussi reprendre certains sports individuels en extérieur, comme le tennis ou le golf.
Oui, le golf ou le surf aussi. En tout cas, ces assouplissements sonnent comme un début de liberté pour de nombreux sportifs, comme l'a constaté Stéphane Place sur la côte atlantique.
Belle vague, bouillon d'écume, grand ciel bleu. Ici à La Cano, les surfeurs comptent les heures et ce n'est pas l'eau à 14 degrés qui gâchera leur plaisir demain. Laurent Rondy préside le comité de surf de la Gironde.
C'est un soulagement forcément. Alors au niveau du club, on a des protocoles qui sont en place. On a une feuille de route à suivre. Après, quand on est free surfeur, l'OMS a sorti une étude comme quoi au niveau des lacs ou au niveau de l'océan, en fait, il n'y avait aucune preuve de transmission plus que de raison, plus que la norme. Même quand il y a 30 personnes au pic, les 30 personnes, elles ne sont pas les unes sur les autres. Quand elles sortent, elles ne se montent pas sur les épaules et quand elles sont sur le parking, elles ne se montent pas sur les genoux.
Et à quelques kilomètres de la plage, les golfeurs vont également retrouver le sourire. Dès le feu vert gouvernemental donné pour la reprise, les inscriptions ont explosé. Alexis Marchif dirige le YouGolf de La Cano.
Déjà 150 ou 180 réservations pour samedi. On peut rejouer à 4, donc c'est une attestation de 3 heures, incluant les allers-retours de leur domicile. Ça sera juste 9 trous. On aura un protocole sanitaire pour éviter les manipulations de drapeaux. On enlèvera aussi les râteaux dans les bunkers. Il y aura du gel hydroalcoolique, bien évidemment, un peu partout. Les voiturettes aussi, il y a des lingettes partout.
Surfer, golfer, à condition tout de même de rester dans un rayon de 20 km autour du domicile. La Cano, Stéphane Place, Europe.
Et à condition d'attendre demain aussi.
À partir de demain, ça va permettre de prendre l'air un petit peu, ça va faire du bien ce week-end. C'était le journal de Sophie Echan, il est 6h12.
Europe Matin, le 5-7.